On continue sur cette série sur la sexualité et je voudrais vous dire que depuis qu'on a accès, je sens qu'on est sur un terrain spirituel. En fait, ce n'est pas juste un thème comme ça sympathique qu'on pourrait aborder ensemble, dire, ah, mais tiens, pourquoi pas. En fait, il y a un enjeu spirituel. En fait, comme il n'y a pas la lumière dessus, là où il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Partout où il y a des ténèbres, il y a des mensonges. Et puis, il y a une sorte d'esclavage, des gens qui sont dans des liens, qui ont besoin d'être libérés. Moi, je l'aborde de manière très décomplexée. C'est un choix. Pourquoi ? Parce que c'est un cadeau de Dieu et je veux célébrer la sexualité parce que c'est un cadeau de Dieu. Je ne veux pas avoir honte de cela. Et du coup, moi, j'en parle librement. Et c'est vrai que, vous savez, j'étais dans des pastorales là, je sors d'une pastorale, hier j'étais en pastorale et puis ils m'ont parlé du poste, vous savez, parler de la sexualité avec un petit canard noir. Mais ça a bousculé, ils disent, bon, pour nous c'est clé, on sait que clé est assez libre avec ça, mais c'est en particulier un choix de ne pas être sous un joug. Je ne vois pas pourquoi, si mon cœur est saint, vous savez, tout est pur pour celui dont le cœur est pur. Tout est pur. Et la sexualité n'est pas réservée pour les choses que malsaines. Et nous sanctifions, tout est sanctifié par la prière, tout est sanctifié par ceux qui le vivent dans la liberté. Et cette liberté pourrait être provocante, mais je voudrais dire qu'il n'y a aucune intention de provoquer quelqu'un ici. Ni ici, ni ailleurs. Mais c'est un choix de mettre cela dans la lumière. Et alors, du coup, je lis pas mal. J'ai ici un livre qui dit « Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré ». Je trouve le titre extraordinaire. Parce que, en fait, le plaisir, Dieu est un Dieu qui prend plaisir. On voudrait croire que Dieu est contre le plaisir, mais Dieu est pour le plaisir. En fait, pour tout, il est pour. Par contre, il y a un cadre qu'il nous donne pour jouir, mais il est toujours pour. Dieu prend plaisir. Il a même placé son plaisir en Jésus. Il dit, quand il témoigne de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Et je vous recommande ce livre, il est pour tout le monde. Enfin, un bout de la préface, un livre qui ose défendre la vision chrétienne de la sexualité et parler clairement et bellement du plaisir. Enfin, un conseiller conjugal, un sexologue chrétien, car cela existe, qui ose déboulonner tant de préjugés sur les positions d'une église jugée constamment rétrograde et culpabilisante par rapport à la pensée unique. Un livre polémique ? Certainement pas, même si à l'occasion de fines flèches sont décochées avec justesse à ceux qui font de la société judéo-chrétienne la cause de tous les maux, de tous les refoulements. Non, un livre documenté, équilibré, festif, ouvrant des avenues sur cette réalité fabuleuse voulue par Dieu, la sexualité humaine. Je le recommande grandement. Et l'acte conjugal, alors ça, vous savez, il y a encore l'étiquette en franc. Acheté il y a des années avant de me marier. Alors, certainement que la couverture devrait être revue, mais je peux vous garantir, en dedans, c'est libérateur. C'est puissant. Alors, moi, j'ai la vieille couverture, je crois que ça a été revu. Il y a eu même une version pour après les 40 ans, c'est ça ? Sexualité après les 40 ans. Et puis, j'ai lu aussi pas mal, là, psychologie. Et alors, là, je ne recommande pas. Vous savez, il y a un titre ici. Il y a des bonnes choses que je recommande dedans, mais il y a un titre qui m'a vraiment interpellé parce que c'est en l'encontre de l'intention de Dieu. Et puis, ça nous dit... à quoi sert la sexualité ? Mais il n'est pas infâme, excusez-moi, le titre, c'est pas moi qui le dis, de baiser sans aimer. Et ça, c'est un mythe. Contre lequel je vais travailler ce matin à dire Dieu veut que la sexualité se vive dans le cadre d'un engagement, d'un amour qui est engagé. Si on dissocie cela, c'est de la dissociation des deux que vient le danger. Et du coup, soyez rassurés, l'approche, elle est sanctifiée, elle est devant Dieu. Et parce que c'est devant Dieu, on a une grande liberté. Ça touche tous les tabous, mais en particulier celui-ci, et je le fais de tout mon cœur et avec foi. Je crois que Dieu va agir puissamment. Dieu aime le plaisir, et particulièrement le plaisir sexuel. Vous savez, il a associé tous les besoins fondamentaux de l'homme de plaisir. nous avons besoin de manger pour vivre. Eh bien, il s'est débrouillé pour qu'on ait des papilles gustatives pour prendre du plaisir à manger. Il aurait pu se débrouiller pour qu'on mange juste parce qu'on a besoin de manger. Mais quel plaisir de manger. Non, mais quel plaisir de manger. Et quand je mange, je rends grâce à Dieu parce que non seulement je me nourris, mon corps a besoin de se nourrir, mais en même temps que je me nourris, parce que je veux maîtriser et que je ne vais pas me faire avoir, je ne veux pas devenir esclave du plaisir. Du coup, je vais être en bonne santé. Mais Dieu a voulu que le besoin de manger soit associé à un plaisir. Nous avons besoin de procréer, de donner la vie. C'est l'intention de Dieu. Et c'est un besoin pour que simplement la vie se perpétue, multipliée. Mais il s'est débrouillé, et vous pouvez faire cela pour tous nos besoins fondamentaux. Il s'est débrouillé qu'autour de la sexualité, il y ait un grand plaisir. Un grand plaisir. C'est son plaisir que de nous faire plaisir. Et quand la sexualité est donnée comme un cadeau, il dit, écoute, ça a pour but de communiquer la vie, de donner la vie, mais c'est enfermé, c'est un cadeau enveloppé de plaisir. Il se trouve qu'il y a un organe féminin qui est là que pour le plaisir. Pour le plaisir. Hein? Je ne sais pas, ça vient comme ça là, vous voyez. Pour le plaisir. Et ce n'est pas un piège. Dieu ne nous fait pas des cadeaux pour nous piéger après, pour dire « Ah, t'avais été tombé dedans !» T'es tombé dedans. C'est pour ça qu'il y a la juxtaposition. Vous savez, dans la lecture, une mauvaise interprétation du péché dans le jardin d'Éden, saint Augustin nous a vraiment posé un problème, un héritage. Il nous a donné un héritage glorieux sur des tas de choses. Mais il a juxtaposé la sexualité au péché dans le jardin d'Éden. Et c'est une faute qui est grave. Parce que la conséquence de la désobéissance, c'est qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont commis l'acte sexuel ou qu'ils pratiquaient, mais alors avec grand plaisir, s'il vous plaît, la relation sexuelle, que du coup ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La juxtaposition des deux. Et c'est un héritage catholique. Je discutais il n'y a pas longtemps avec des amis là, sur le sujet, puis d'un coup on a une représentation que le péché originel c'est un acte sexuel. Qui c'est qui a eu cette représentation? Levez les mains juste comme ça là. Ok. Alors chez les évangéliques, pas de trop. Hein. Mais des fois, sans en avoir conscience, dans notre héritage catholique, et là, moi, j'en veux pas aux catholiques, je parle d'une pensée judéo-chrétienne. Et c'est ce que dit ce livre dans sa préface. C'est-à-dire qu'on croit aujourd'hui que parce qu'on doit se libérer de la pratique et de l'héritage judéo-chrétien, pourquoi? Parce que la sexualité est liée au péché ou la sexualité est liée à ce qui est malsain. Non, c'est un cadeau de Dieu. Et je peux multiplier tout ce que Dieu a mis, dormir. Vous savez, c'est un besoin fondamental, le repos. Mais alors, qui c'est qui aime dormir? Pour qui c'est un plaisir de dormir? C'est un besoin fondamental. Dieu, dans tout ce qu'il a créé, a associé le plaisir à des besoins fondamentaux. Et ce n'est pas un piège. Quand tu dors et que vraiment tu as pris plaisir, Dieu n'est pas là en train de dire « tu prends du plaisir ». Vous savez, on a l'impression que quand on est heureux, Dieu ne prend pas plaisir. Et je vais amener de la lumière. Tout est un plaisir. Une bonne douche. Oh. On a besoin de prendre la douche. Hein. On aurait pu prendre la douche sans que ça fasse plaisir. Alors, oui, il y a un temps pour les enfants, c'est pas trop. Mais alors, après l'adolescence, je vous l'annonce, hein, les ados, après l'adolescence, vous allez aimer ça. L'effort là, waouh, t'es fatigué. Tu prends une douche, tu dis, oh. Moi, il m'arrive de dire, oh Jésus, qu'est-ce que c'est bon. Jésus, qu'est-ce que c'est bon. Et je voudrais dire que même, hein, on peut faire l'amour en présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent plus où est-ce qu'ils sont, dans la présence de Dieu ou pas. Puis au moment où il y a la grande jouissance, et des fois c'est « Alléluia !» Bon, ça c'est les religieux, vous voyez. Mais Dieu a associé à tous nos besoins fondamentaux un plaisir. Et donc, je veux vraiment tordre, vous savez, les mauvaises représentations. Dieu et le plaisir, c'est associé. Il aime nous faire plaisir. « Alors, le titre, sur ce point, je vais laisser Emma. Emma nous visite, elle est venue voir Longchamp pour son anniversaire. C'est l'anniversaire de Longchamp aujourd'hui. Ouais. Et, non. Alors, je vais lui donner la parole parce qu'elle est là, elle s'en va demain. Mais pour lui dire comment que elle a vécu la manière dont dans la maison, dans notre maison, on a célébré la sexualité pour lui donner une éducation sexuelle qui aborde la sexualité comme quelque chose qui est beau, qui est un cadeau de Dieu. Ça peut vous donner une représentation de l'importance que dans notre rapport, on n'éduque pas simplement parce qu'on dit, on éduque par l'exemple qu'on donne. Et donc je vais appeler Emma, si tu veux bien venir, nous dire quelques mots avant que je continue.
Bonjour. Ok. Alors moi, ce que je vais vous partager, comme a dit papa, c'est que depuis que je suis toute petite, on a toujours su, tous les trois, avec Benjamin et Adèle, que la sexualité est quelque chose de positif, de très sain dans le couple, et que ça apportait de l'équilibre et beaucoup de joie. Donc, ce qui est cool, c'est que... Enfin, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai jamais eu une vision culpabilisante, ni négative, ni sale, de ce que c'est la sexualité, parce que mes parents le vivaient librement, en parlaient librement. Et il y avait beaucoup de blagues, beaucoup d'humour autour de ça, que ce soit avec les amis qui venaient à la maison, mais aussi entre eux. Et moi, je voulais vous encourager, pour les parents, à libérer aussi la parole par rapport à ça, pour que les enfants puissent avoir conscience de ce qui se passe. Et en fait, quand le plaisir et même la complicité entre le couple est assumé, c'est magnifique. Moi, je sais que depuis petite, c'est en mode « Ah, il y a plein de promesses dans la Bible pour ça. » Et c'est quelque chose de très concret qu'on peut voir tous les jours. Et donc, je vais vous donner quelques petites anecdotes. C'est dans notre famille. Voilà, maman elle doit être cachée quelque part. C'est les siestes. Alors nous, on sait, les enfants sacramentaux, que quand nos parents vont faire la sieste ensemble et qu'ils nous préviennent qu'ils vont faire la sieste, que c'est leur moment d'intimité à eux. Ça peut être dans l'après-midi, donc c'est vécu très librement, en pleine journée. Je sais pas, voilà. Et donc du coup, c'était beaucoup des blagues entre nous en disant, bon là, on va jouer dans le salon ou dehors. Et donc du coup, c'était beaucoup d'amour et je trouve ça très sain en fait de grandir dans cette atmosphère-là. Et je reviens du Japon, et au Japon, par exemple, leur sexualité, ils ne la vivent pas dans leur foyer, mais ils vont dans des love hotels, et donc ça se passe à l'extérieur. Donc du coup, les enfants n'ont pas de rapport avec ça, et ils préfèrent que ça se vive ailleurs. Et c'est très bien que ce soit dans les maisons, dans nos foyers. Et du coup, j'ai un rapport très décomplexé, et je pense que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nos familles. Et du coup, voilà. C'est super, et je veux dire merci, parce que c'est vraiment précieux, et je pense... ça aide beaucoup à avoir un regard qui est juste et sain sur la sexualité.
Emma me disait que par rapport à sa génération, elle se sentait libre et que d'autres n'avaient pas sa liberté, à tel point qu'elle initie ou elle vit un groupe de partage avec des frères, des sœurs, où elle choisit de... avec d'autres, d'en parler très librement. Parce que dès qu'on en parle librement, ça libère les autres. Alors, ce matin, le titre de mon message, je l'ai annoncé, c'est « Célibataire ou célibatant ?» Célibataire ou célibatant. C'est-à-dire, soit tu es un célibataire qui est à terre, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à gérer la sexualité, où je vais donner une voix par excellence. Je vais en parler librement ce matin pour que véritablement on puisse le vivre avec dignité, qu'on puisse le vivre avec liberté et que ce soit vraiment l'occasion de, au moment où on ne peut pas physiquement pratiquer la sexualité, eh bien, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de sexualité pour les célibataires. Dieu nous a créés sexués et les pulsions sexuelles existent avant même qu'on puisse être en rapport avec quelqu'un avec qui il y a une alliance et avec qui on va pouvoir pratiquer la sexualité. Donc du coup, il y a une espérance et je voudrais dire que c'est pastoral. Je veux vraiment prendre soin ici de l'Église en son ensemble et aborder la sexualité en m'adressant directement aux célibataires ou aux célibatants. Voyez, Donc pour nous donner, de dire, tu peux être à terre avec cette question et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. C'est peut-être douloureux. Et je voudrais dire, ce que je vais partager va concerner même des couples mariés, parce qu'après le mariage, et pour autant, ça ne fonctionne pas. La frustration est là. Et vous savez, quand on n'est pas comblé, il y a un moyen, ce besoin va chercher le moyen d'être assouvi d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce dont je parle, même si je m'adresse et je veux le faire, et c'est de tout mon cœur, je peux vous dire, je crie, je prie pour que vraiment le Seigneur vienne rejoindre, comme on va le voir dans ce texte, les uns et les autres dans leurs besoins fondamentaux. L'amour est un besoin fondamental. L'amour, la sexualité en est une expression, mais c'est fondamental et Dieu veut nous rejoindre chacun. Et si, vous savez, on peut être pris par exemple par la pornographie alors qu'on n'est pas marié, mais on peut être marié et pris par la pornographie. Et je voudrais dire que toutes les compulsions, tout ce qu'on réprime et qu'on ne maîtrise pas, eh bien, à un moment donné, va nous échapper, va devoir avoir une expression et être comblé d'une autre manière. Et du coup, il ne s'agit pas de se culpabiliser du fait qu'on est piégé d'une manière ou d'une autre ici, mais surtout de comprendre d'où est la source et comment vraiment ici être libre. Je voudrais commencer par ce texte, si tu veux bien me mettre le premier texte. Et c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, qui leur a envoyé, les Corinthiens ont envoyé à Paul des questions précises. Comment on fait pour gérer la sexualité dans le mariage, en dehors du mariage, pour les fiancés, pour, etc. Et il répond. Alors, ah oui, mais là, je vais quand même lire ça. Excusez-moi, j'avais préparé ça. Pour vous dire que Dieu prend plaisir à la sexualité, c'est dans les Cantiques des Cantiques qu'il est dit ici que tu es belle et que tu es gracieuse, ô mon amour, ô ma fille délicieuse, ou fille délicieuse. Par ta taille élancée, tu es comme un palmier, tes seins en sont les grappes. Par ta taille élancée, tu es comme un palmier, tes seins en sont les grappes. Ainsi j'ai dit, je vais monter au palmier et j'en saisirai les grappes. Que tes seins soient pour moi des grappes de raisin. Alors vous savez, là on est dans des métaphores, mais quand il monte sur le palmier là, pour le faire en français courant, ils font l'amour quoi. Vous savez, c'est joli hein, les palmiers. Mais je peux vous garantir qu'ici là, on parle pas des palmiers là. C'est un rapport amoureux. Et je vais vous dire une chose qui est très 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 forte. Les théologiens juifs comme chrétiens, parce que du coup c'est d'abord juif hein, avant que ça devienne un livre, la Bible, un livre chrétien. Eh bien, ils étaient bien embarrassés pendant longtemps et ils ont compris que c'est une métaphore entre Dieu et Israël. Vous imaginez que Dieu donne une métaphore de son amour pour Israël en disant, écoutez, ça, c'est ma passion pour vous, ça saisit mon corps, mon être tout entier. Je suis épris d'amour pour vous et tout en moi est embarqué. Et je vous en donne une représentation en disant, vos relations sexuelles peuvent être à l'image de la passion que j'ai pour vous. Alors comprenez comment que Dieu ne peut pas être contre le plaisir sexuel. Et ici, il ne s'agit pas, vous savez, d'un moment de préparation pour avoir un enfant. C'est l'amour, le plaisir pour le plaisir. Et Dieu dit qu'il prend plaisir à son peuple. C'est fort, hein. Il y a des textes bibliques qui disent Dieu prend plaisir à son peuple. Et son amour n'est pas juste, vous savez, très mystique. Il est mystique, il est spirituel. Donc il est évidemment qu'il n'y a pas une dimension sexuée, physique. Mais sa passion ressemble grandement. Il a inscrit, il nous a créé à son image. Il a inscrit jusque dans nos corps la même passion qu'il a pour nous dans l'esprit. C'est pourquoi il n'a aucune difficulté à utiliser une métaphore physique pour parler de sa passion spirituelle. Mais Dieu, quand il dit qu'il nous aime à ce point-là. Il nous désire à ce point-là. Il est pris envers chacun de nous à ce point-là. On dit waouh, 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 waouh. Alors c'est une image pour lui. Mais comment pourrait-il prendre cette image si à la base, il ne nous encourage pas à vivre la même chose en couple ? C'est juste pas pensable. Dans la pensée de Dieu, il ne peut pas prendre un exemple qui est un contre-exemple. Son désir, c'est que nous prenions du plaisir. Waouh. Verset suivant, s'il te plaît. Et là, c'est vraiment pastoral. Paul écrit à l'église de Corinthe et son cœur veut. On sent son cœur vibrant. Je vous invite à relire 1 Corinthiens 5, 6 et 7. Vraiment, il prend du temps autour de cette question. Et il dit, mais si vous ne pouvez pas être maître de vos corps, mariez-vous, il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors, il ne faut pas mal interpréter ce texte. Il n'est pas en train de dire pour parce que vous allez vous marier, vous allez régler votre problématique. Le problème, c'est quoi? Si vous n'êtes pas maître de votre corps. Et le chemin par excellence que je voudrais proposer, et que Paul propose aussi, de dire, je voudrais que vous soyez comme moi, capable d'être maître de vos corps. Si vous n'y arrivez pas, vaut mieux vous marier. Il est en train de dire, je sais qu'à des moments, il y a des pulsions qui viennent. Elles sont tellement puissantes. C'est comme un volcan qui se réveille pour un ado et pour plus tard. Ça nous prend tellement, c'est un tel besoin qui vient assouvir quelque chose qui est vraiment profond. Et donc du coup, si tu ne sais pas canaliser cela, et la solution que Dieu nous donne, même pour les célibataires, comme pour les mariés, c'est d'apprendre à maîtriser ses pulsions sexuelles. Il ne s'agit pas de les réprimer, il s'agit de les maîtriser. Et en fait, je voudrais annoncer une bonne nouvelle, c'est possible. La Bible nous dit, il y a un fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Et si le Saint-Esprit est au-dedans de nous, il peut nous apprendre. Moi, je peux témoigner que dans tout mon parcours, j'ai appris à maîtriser. Alors, ce n'est pas une maîtrise à 100% et tout le temps quand on n'est pas marié. Mais je veux dire que le chemin par excellence, c'est d'apprendre à maîtriser de telle sorte que quand tu es marié, tu puisses vivre et donner l'amour au lieu de le prendre. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quand on est marié, on se marie et on va le faire avec le modèle de Christ qui, lui, s'est livré, s'est donné. Et donc, dans la préparation, avant de pouvoir avoir des rapports sexuels, Dieu va nous conseiller de développer une capacité, de rentrer dans l'école à apprendre à maîtriser ses pulsions, dans le but de les canaliser pour les donner par amour, le donner à celui que Dieu ou celle que Dieu a réservé. Si tu n'as pas appris ça, si au moment où tu es dans l'attente, tu n'es pas dans la logique d'être dans l'école, de maîtriser tes instincts, et tu dis j'en peux plus, il faut que je me marie. Je peux te dire, il va falloir que tu continues étant marié à maîtriser tes instincts. Sinon, tu ne sauras pas procurer le plaisir que tu as donné. En fait, l'amour est vraiment amour, la sexualité est vraiment épanouie quand c'est donné, quand c'est agapé. On voudrait croire que la sexualité, c'est juste Eros. Eros, c'est dans le sens où on fait l'amour, mais il n'y a pas d'amour. Enfin, disons, on a des rapports sexuels, mais il n'y a pas d'amour. Mais en fait, dans l'intention de Dieu, il faut qu'il y ait de l'amour, mais un amour en capacité de maîtriser pour donner. Parce que tu maîtrises, ça devient un art. Parce que tu maîtrises, ça devient un don. Parce que tu maîtrises, tu peux vivre l'épanouissement. Sans maîtrise, il n'y a pas d'épanouissement. C'est pourquoi un couple même va dire, ah, mais il faut que je me marie. Et oui, Paul, il est la pastorale disant, écoutez, vaut mieux ça parce que si tu ne te maries pas et que tu n'en peux plus, tu ne maîtrises pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre dans l'immoralité, tu vas faire du grand n'importe quoi. Donc il dit, par soin pour vous, vaut mieux se marier. Mais il dit par ailleurs dans tout le texte, maîtriser, apprends à maîtriser. Et à un moment, il dit, si tu arrives, en rentrant dans cet exercice, tu arrives à tel point que tu te dis, mais je gère. 5 ans, 6 ans, 7 ans, je gère, je suis capable de me maîtriser. Il dit, fais comme moi, demeure à fond pour Jésus, demeure à fond. Je vais vous dire, ça va très très loin, je vais me permettre de, passe-moi les versets juste de Corinthiens juste après, si vous voulez. C'est vraiment fort. Donc tu sautes ce que j'ai juste après, et puis, après 1 Corinthiens, toujours 7, juste après, voilà, super. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Amen. Son seul souci est de lui plaire. Donc vous voyez, il y a du plaisir là. Celui qui n'est pas marié, son seul souci, c'est de plaire à Jésus. D'accord ? Il vit toute sa vie. Quand il maîtrise, il est libre, il maîtrise ses instincts, ses pulsions, et il dit, je veux me consacrer à 100%. Ça, c'est le conseil de Paul. Mais voyons la suite. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. Il est en train de dire, c'est presque, écoute, ton adoration, même tes besoins sexuels. Alors, je vais finir. Hein, parce qu'il dit, de même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. ring-eating. Tes pulsions sexuelles sont canalisées pour se dévouer à lui, corps et esprit. Donc, on pourrait dire, wow, on est où là? Mais on est dans la Bible. Paul lui dit, je voudrais que vous soyez comme moi, si vous êtes en capacité de maîtriser, si vous rentrez dans ce protocole, ce processus, c'est possible de se maîtriser. Il y est arrivé, d'autres y sont arrivés, parce qu'il y a une connexion. Je veux dévouer ma vie entière. C'est de là que viennent les monastères, vous savez, les femmes qui se consacrent, parce que corps et âme, leur mari, c'est Jésus. C'est une extrapolation, ça va trop loin. Mais en attendant, c'est de là que ça vient. Corps et âme, je lui plais. Je veux lui plaire, je ne veux pas être distrait, je ne veux pas être tiraillé. Ce qu'il est en train de dire, l'adoration que je lui porte, le plaisir que je veux, c'est lui mon intérêt, c'est mon amoureux, je l'aime, je veux consacrer ma vie. Okay, ça, c'est les moments où on est vraiment à fond là. Puis il dit, le problème, c'est que si tu te maries, tu vas prendre de ça et tu vas avoir le donner à une femme. Et je ne veux pas que tu sois tiraillé parce que tu vas prendre de la passion d'attachement à Dieu, tu vas devoir t'attacher à quelqu'un d'autre. Et il dit, hey, je voudrais que tu ne sois pas sans distraction, que tu ne sois pas là en train de dire, mais lui, mais là, mais oh là là, mais j'abandonne ça et je veux le donner à 100%. Donc, vous savez, il y a de l'espérance pour les célibataires qui disent, je vis une passion pour Dieu qui est telle, j'arrive à maîtriser mon besoin de concrétiser mon amour avec mon corps. J'ai décidé que non, mais il y a tellement autre chose dans la sexualité que le rapport sexuel. Il y a autre chose dans la sexualité que le rapport sexuel. Parce que ça veut dire, ce que tu vas donner à l'autre, tu ne vas pas le donner que dans ton corps, tu vas le donner dans ton âme, tu vas le donner dans ton esprit. Quand tu t'attaches à ta femme, il y a une dimension qui est spirituelle et qui correspond à la sexualité. La sexualité n'est pas qu'un rapport sexuel, c'est aussi un attachement d'esprit et un attachement d'âme. Du coup, si tu apprends à maîtriser ton corps, ça s'apprend. Et tu sais, c'est comme marcher. Au début, tu fais un pas et deux, tu tombes. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te relever. Tu te relèves et puis tu vas faire 5 pas et 10 pas. Et à un moment donné, tu vas réussir à maîtriser. Et c'est là où tu te dis, est-ce que je peux tenir? Parce que le chrétien, il rentre toujours dans cette logique. Est-ce que je peux tenir longtemps? Ou il y a des cycles où le besoin est tel. Non, il faut vraiment que j'aie quelqu'un. Et là, il dit, dans ce cas-là, vaut mieux te marier. Et c'est pastoral, parce qu'il sait que quand le volcan s'allume, quand les chevaux se lèvent, pour tenir ça là des fois, tu dis non, je ne peux pas, je ne suis pas assez fort. Mais le message, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est pour ne pas tomber dans le péché, la fornication, puis toute l'immoralité qui est rattachée, j'arrive pas à me contenir, donc je fais n'importe quoi. Mais il y a une issue. Il y a une issue. Même à la suite, s'il te plaît. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce... Non. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Et là, pour moi, il y aurait de quoi faire un séminaire sur les couples pour dire, est-ce que tu vis pour plaire à ton mari? Est-ce que tu vis pour plaire à ta femme? Est-ce que l'énergie, finalement, tu t'es consacré, tu dis, mais je voudrais me consacrer à 100% en prier, jeûner. Est-ce que tu pries et tu jeûnes pour plaire à ta femme? Alléluia. C'est de ça dont on parle. Il dit, je voudrais que vous ne soyez pas distrait, mais par contre, si vous vous mariez, attention, vous consacrez vos vies à plaire à l'autre. Vous vivez pour l'autre. Vous cherchez tout dans cette vie à dire, je veux plaire, je veux répondre aux besoins. Je ne me suis pas marié pour prendre, je me suis marié pour donner. Alors attention, parce que tu t'es marié pour donner, fais attention. Ça va te coûter. Le mariage, ça coûtait. C'est pas que la cérémonie qui coûtait. Ça coûte du temps. Non, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la passion, ça coûte de la créativité. Je veux rester amoureux. Je veux que le feu du premier amour reste comme au premier jour. Ça là, ça coûte. Je vous garantis, ça coûte. Un mariage qui ne te coûte pas, c'est voué à l'échec. La sexualité ne fonctionnera pas si ce n'est pas dans cette dimension-là. Donc comprenez bien, ça parle à tout le monde. Cette sexualité-là parle à tout le monde. C'est là où Paul lui dit, attention, si vous choisissez, vous aurez des tribulations. C'est-à-dire, celui qui se marie aura des tribulations. C'est-à-dire, en fait, il le dit par la suite. Hein, lisez 5, 6 et 7. Il le dit, oh, je préférerais que vous soyez comme moi. Moi, vous comprenez, j'ai pas ces soucis-là. Je les ai pas, là, les trucs de la terre. Moi, j'ai décidé de vivre comme si j'étais déjà dans l'éternité à 100% pour Jésus. Est-ce qu'il y a des célibataires ou des célibataires qui disent « Hallelujah !» Bon, c'est pas assez convaincu, mais ça vient. Pas assez convaincu, mais ça vient. Mais c'est ça ce que Paul dit. Par contre, je voudrais que vous entendiez qu'il est vraiment préoccupé. Il dit, vaut mieux se marier. Et je voudrais vraiment que vous entendiez le cœur même du Seigneur qui dit, vaut mieux te marier. Par contre, continue à te préparer. Continue à engager la logique de maîtriser. Alors, du coup, si tu peux revenir sur Jean, je vais vous raconter une histoire qui est magnifique. Jean 4, vous savez, c'est comme le magasin La Samaritaine. On trouve tout à La Samaritaine. On trouve tout à La Samaritaine. Écoutez bien cette histoire. Ce rendez-vous, c'est mon temps de ministère pour ce matin. Jésus a donné rendez-vous à une femme qui avait des besoins, des pulsions sexuelles qu'elle ne savait pas contenir. Jésus est venu seul dans un moment où une femme, dont on n'a pas le prénom, qui s'appelle, c'est une Samaritaine, elle vient à midi puiser de l'eau à un puits, le puits de Jacob. Elle a honte. Je veux annoncer ce matin, il y en a plusieurs qui sont sous la honte, la condamnation, la culpabilité de ne pas maîtriser. On va s'engager dans ce processus. Mais c'est un poids, tu as honte. Et elle est venue à midi parce qu'elle avait honte, elle ne voulait pas qu'on la voie, elle ne voulait pas croiser quelqu'un. Elle a une vie dissolue, elle s'était mariée 5 fois. 5 fois elle s'est mariée et elle avait quelqu'un, elle a dit, ça coûte trop cher cette affaire. C'est pas son mari, par contre, elle a des rapports sexuels avec. Elle avait un besoin d'amour tel. Ses mariages n'ont pas réussi à régler le problème. Et elle avait honte. La société pointait du doigt, la condamnait, la mettait de côté, la rejetait. Elle avait honte parce qu'elle ne savait pas gérer son besoin sexuel. Elle ne savait pas gérer ses pulsions sexuelles. Elle avait honte. Et ce matin, plusieurs sont dans la honte. Et vous voyez, Jésus, ce n'est pas elle qui vient vers lui, c'est lui qui va vers elle. Comme dans le jardin d'Éden, ils ont su qu'ils avaient péché, ils ont eu peur, ils avaient honte, ils se sont mis des feuilles de figuier pour se cacher parce qu'ils avaient honte et Dieu est en train de les chercher. Et ce matin, Jésus veut aller à la rencontre à un puits pour te délivrer de la honte. Jésus la rencontre et puis ils engagent une conversation. Et ce moment-là est un moment d'intimité. Rendez-vous compte. Jésus a un moment d'intimité, seul à seul. Ça ne se faisait pas à l'époque. Un homme qui parle à une femme, une étrangère, ça ne se faisait pas. Dangereux. Elle pourrait te sauter dessus, te violer ou je ne sais quoi. Jésus choisit, il le savait, c'était un rendez-vous divin. Il y a un message puissant de Dieu qui veut nous délivrer de la honte. Ils engagent une conversation. Donne-moi à boire. Oui, non, je boirai de ton eau, tu ne boiras pas de mon eau. Donne-moi, mais t'as pas de quoi boire, voyez. Il y a une dimension comme ça, juste humaine. Puis à un moment donné, il dit une chose qui est puissante, qui est extraordinaire. Et c'est pour nous ce matin. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un boit de cette eau, de ce puits, il aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Alléluia. Et cette source donnera la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi de cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui répondit, va appeler ton mari et reviens ici. Vous savez, il y a deux dimensions ici. On parle de l'eau matérielle. Et elle dit, donne-moi de cette eau, j'ai tellement honte, je ne veux plus revenir. Je prendrai cette eau-là, je rentrerai chez moi, je me cloîtrerai dans ma honte et je resterai là. Jésus dit, non, je veux te libérer de ta honte. Ah bon? Mais comment? Il dit, écoute, va chercher ton mari. Vous savez, en fait, au moment où il lui dit ça, il sait où il s'en va, Jésus. Va chercher ton mari, il dit, ah, je ne suis pas marié. Jésus dit, je sais. Je sais que tes pulsions sexuelles sont une soif et que tu crois que parce que tu vas avoir des rapports sexuels, tu vas étancher cette soif. La soif des rapports sexuels renvoie à une soif qui est plus grande. Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'amour d'un père. Tu as besoin d'amour, l'amour de ton créateur. il faut que tu bois, il faut que tu boives de l'amour de ton Créateur. Ainsi, tu pourras avoir un couple stable. Parce que quelque chose aura été comblé au-dedans de toi que tu n'arrives pas à combler juste par les rapports sexuels. Tu dis, tu sais, and I try, vous savez le chant de... Tout le monde a suivi, c'est bon? Mick dit, and I try, I can get... Oh, pardon. On parle de quoi, là? Rapport sexuel. J'y arrive pas. C'est pas satisfaisant. J'essaye. C'est pas satisfaisant. Je bois, j'ai encore soif. Je bois, j'ai besoin d'amour. En fait, la sexualité est un besoin d'amour. Mais si tu ne bois que dans le sexe, ça répond pas. Vous savez, il y a une juxtaposition de dire que si tu bois l'amour de Dieu, et là, il lui présente le Père. Il lui dit, il faut... Puis c'est la conversation continue, puis il lui dit, « Ah, je vois que tu es prophète, parce qu'il a une parole de connaissance qu'elle a cherché à combler... » Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? « Tu as cherché à combler ta soif profonde par des rapports sexuels. » C'est ça que Jésus lui dit. « Tu as cherché cela. Tu n'y es pas arrivé. Maintenant, je viens vers toi pour te donner de l'eau. Que si tu bois, il y a quelque chose au-dedans de toi qui est comblé, que rien ne pourra le remplacer. » Vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit d'adoration. D'un coup, elle dit, tu es prophète, et sa soif profonde se manifeste. Mais où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce que c'est à Jérusalem? D'un coup, à cause de cette conversation, son cœur se révèle, la passion de son cœur se révèle. En fait, oui, j'ai soif de quelque chose de plus. En fait, elle comprend pas ce qui se passe, mais elle dit à Jésus, j'ai soif d'adoration, j'ai soif de rencontrer Dieu le Père. Et là, il lui en parle. Il dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. On a une révélation de quelque chose de puissant dans un contexte d'une conversation sur la sexualité. Et Jésus dit, on ne peut pas être comblé dans sa sexualité sans être comblé dans son esprit. En fait, il lui dit, si tu vis une relation sexuelle en cherchant à ce que ça vienne t'abreuver dans ton besoin profond et que tu ne comprends pas, que c'est d'abord la rencontre avec Dieu, le Père. Hein? Il dit, le Père cherche des adorateurs et ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que tu vas rencontrer Dieu véritablement. Comme Paul disait, écoute, je veux que tu sois sans distraction. Adore-le, cherche à le plaire. Attache-toi à lui. Si tu es comblé, tu peux gérer ton besoin sexuel. Si spirituellement, tu n'es pas comblé, tu ne peux pas gérer ton besoin sexuel. Moi, j'aime bien la thérapie par l'adoration. Jésus, il propose une thérapie pour gérer nos pulsions sexuelles par l'adoration. Waouh. Ça change un peu la donne. Hein. Il est en train de dire, quand tu adores, tu te remplis de quelque chose que rien ne peut remplacer. Quand tu adores vraiment, hein, en esprit et en vérité, quand c'est ça, ces conditions sont réunies, il y a quelque chose en toi qui est comblé, qui va faire que, waouh, ton esprit est contenté sexuellement. Oh, je l'ai dit. Est-ce que ça choque quelqu'un là avec la démonstration que je viens de faire? Ton esprit, vous savez, notre besoin sexuel, il n'est pas que physique, il est spirituel. Notre besoin d'amour, vous voyez, tout ça, c'est des mots, c'est équivalent. Notre besoin d'amour, il est spirituel. C'est pourquoi, quand je me suis converti, moi, j'ai vécu, sans le savoir, après coup, c'est maintenant que je le dis, mais j'ai vécu un baptême d'amour. Quand on se convertit, que c'est que cérébral, il faut faire attention. Si ton esprit ne vibre pas, puis dit, wow, Jésus, moi, tout mon être a vibré. Tout mon être l'a aimé. J'ai consacré ma vie entière. Vous savez, ce n'est pas intellectuel. Ouh, je comprends que Jésus, il est le Seigneur et le Sauveur. Oui, je lui donne ma vie. Hop. C'est toujours, ah, mon cœur vibre pour toi. Vous me suivez là? Il faut que ton esprit se mette à adorer, mais à aimer profondément, à recevoir l'amour et à le donner à ce niveau-là. Là, on est dans une conversion qui embarque ton être entier. Donc, je parle toujours aux célibataires. Le chemin, c'est la rencontre du Père. Rencontre de Jésus qui te conduit au Père. Nul ne peut venir au Père que par lui. Jésus vient trouver la Samaritaine et il la conduit au Père. elle boit, elle boit. Et cette révélation conduit à quoi? Elle a plus honte. Vous voyez? Elle jette tout là, vous voyez? Elle court, elle court, elle court, tu sais? Puis pour dire, hé, c'est comme si elle avait oublié qu'elle avait honte. On est toujours à midi, hein? Ils devaient avoir discuté, quoi, une demi-heure. Elle court dans la ville, alors qu'avant elle avait honte, mais parce qu'elle a goûté, elle a bu, elle dit, oh, j'ai plus honte. J'ai plus honte. Dieu veut délivrer de la honte ce matin. Et la clé, c'est l'amour du Père. La clé, c'est de l'amour du Père. Après, je voudrais parler du fait que, dans ce temps, Jésus, il a non seulement conduit la Samaritaine au Père, elle a goûté, elle a bu, la preuve, c'est qu'elle était libre, mais il a vécu un moment d'intimité avec elle. Je pense que c'était la première fois de sa vie où, avec un homme, son esprit, enfin son cœur, sa personnalité, son identité a été touchée, rencontrée. La sexualité, ce n'est pas simplement de l'adoration, ça l'est, et c'est premièrement de l'adoration, mais c'est aussi de l'intimité de nos âmes. Avant que dans nos corps, il y ait un vrai plaisir intense, il faut que l'esprit soit touché, il faut que l'âme soit touchée. Et en vérité, elle a vécu un moment d'intimité avec Jésus, un moment profond où ses pensées profondes ont été partagées avec Jésus, où ses émotions profondes ont été partagées avec Jésus. Sa volonté profonde, tout son être intérieur, son psyché, avec un moment d'intimité. Et moi, je voudrais dire, avant d'être marié, il y a besoin d'apprendre à vivre l'intimité. Dans la maison, dans une maison, les enfants doivent apprendre à vivre l'intimité. Savoir exposer tes pensées, exposer ta volonté, exposer tes émotions, et les gérer, les canaliser. Vivre en sécurité, en partageant les choses profondes. C'est ça l'intimité. Nos enfants doivent apprendre à vivre l'intimité. L'intimité s'apprend. L'amour s'apprend. J'apprends à me dévêtir, comme disait Jérémie. Si je me dévais dans mon âme, je me dévais, j'apprends à le faire. Je vis l'intimité. Et là, avec Jésus, elle a vécu une intimité profonde. Elle s'est laissée. Vous savez, il y avait des freins. Hein. Au début, oh, bon, t'es qui? Mais comment tu peux me parler? Vous savez que je te tiens éloigné. Je ne peux pas vivre de l'intimité. Tiens-toi éloigné. Mais t'es étranger. T'es un homme. Qu'est-ce qui se passe? Puis Jésus, il arrive à déboulonner tout ça. Et puis il s'approche, approche. Il s'approche tout près, tellement près que wouah, son cœur explose. C'est de l'intimité. Et je voudrais dire aux célibataires, on peut vivre une intimité avant d'être marié, qui vient combler quelque chose au-dedans de toi. Si tu n'as pas appris à vivre l'intimité, vous savez, il y a des couples mariés qui ne vivent pas de l'intimité. Âme à âme, cœur à cœur. Je livre le fond de mes pensées, je suis en sécurité pour me livrer au fond de mes pensées. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui vient se combler avant même le rapport sexuel. Il est indispensable d'apprendre à livrer le fond du fond de ce que tu es. Ça peut se faire avec un autre être humain, une femme, avec une femme, un homme avec un homme. Ça peut se faire entre un homme et une femme, même quand ils ne sont pas mariés. Mais sainement, parce que Jésus a fait ça avec la Samaritaine. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage avec Marilène. On a été amis pendant 6 ans avant d'envisager de se fiancer. C'était ma meilleure amie. Et on n'avait aucun plan, ni elle ni moi, de se marier pendant 6 ans. Et cette relation s'est engagée après qu'il y ait eu toute une œuvre de Dieu en moi. Je l'ai déjà raconté, je vous invite à écouter la dernière prédication que j'ai faite à ce sujet où je disais, j'étais abusé enfant, ça m'a déréglé complètement, puis je me suis converti, et puis après ma conversion, il y a eu toute une restauration jusqu'à ce que même mon rapport avec les filles soit géré avec maîtrise. Parce que quand j'avais compris que le Seigneur ne voulait pas que je consomme sexuellement, j'ai dit ok, j'ai compris. Mais le reste n'était pas encore, voyez, converti. Donc, j'étais en relation avec les filles. En vérité, je les séduisais parce que j'avais besoin de sentir comme j'avais un pouvoir de séduction, vous savez. Non, mais là, je m'approche des ados parce que je sais que un pouvoir de séduction. Puis à un moment donné, quand la fille disait, bon, Rodrigue, je suis amoureuse, comment? Oh, moi, je suis consacré au Seigneur. Qu'est-ce que tu dis là? Mais je l'avais mis dans mon film. Je dis, oh, pouvoir de séduction. Le Seigneur m'a repris, il m'a dit, hé, attention, c'est une âme là, attention, on peut vivre l'intimité en maîtrisant notre pouvoir de séduction. avec Marilène. Du coup, j'ai engagé cette relation. Et quand j'ai engagé cette relation, qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu une relation profonde. On adorait, on priait ensemble sans que ça pose problème. On partageait nos pensées profondes. Je me souviens qu'elle vivait une relation difficile dans sa famille. Elle m'appelait en larmes, on priait ensemble. Il y avait une chose profonde, nos aspirations profondes qui se partageaient. Et alors, il n'y avait même pas la pensée. Vous voyez, à des moments, je me dis, mais j'étais devenu, je ne sais pas ce qui s'est passé, une grâce, à cause d'une maîtrise. Si tu n'arrives pas à faire ça, préserve-toi. En fait, on est libre en fonction des choses qui maîtrisaient dans nos vies. On a vécu des moments propres. Ce qui fait que, quand à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est le temps, mes études sont terminées, je vais rentrer servir Dieu en Afrique. Et puis je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir me marier? Est-ce que je vais pouvoir trouver un... Parce que ma mère avait préparé une femme pour moi. Et ouais, c'est encore à l'ancienne. Je lui faisais confiance, c'est comme ça que ça marchait. Hein, même pour ma génération. Et puis je me dis, mais imagine, je rentre, et puis ça marche pas. Je dis, est-ce que je trouverai une amie? Vous savez, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se marier avec son meilleur ami. Et à un moment donné, quand l'amour a été réveillé... Ah, il y a des meilleurs amis, là? Bon, on va régler nos comptes, hein? Non, je vous explique pourquoi. À ce moment-là, d'un coup, je me dis, mais est-ce que je trouverai quelqu'un avec qui j'ai cette intimité-là? Et d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'ai dû étudier dans la Bible, au fait... Est-ce qu'un noir et une blanche, les races peuvent se marier? Bon, ben merci de rigoler. Hein. Ça ne me faisait pas rire à l'époque. Franchement, c'est une vraie question. Je suis parti trouver Philippe Jouret. Je dis, alors, la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit des mariages? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas la mode, hein, je vous dis la vérité. Et il m'a sorti le cantique des cantiques. Je suis noir, mais je suis belle. Vous savez la tsunamite, là? Lui, il est blanc, blanc-vermeil, puis elle est noire. Alléluia. Et il a suffi qu'il me dise ça, j'ai dit yes. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai lâché les amarres. J'ai dit waouh, c'est ma bien-aimée. Tu sais? Vous savez, c'est possible de vivre une adoration qui te comble et ça vient rencontrer ton besoin d'amour profond. Tu peux vivre de l'intimité, gérer devant Dieu dans la lumière, sans rapport sexuel. Et Dieu dit, pratique, maîtrise. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vas avoir des rapports sexuels, ce sera donné, ce ne sera pas pris. Alors, je finirai pas sans aborder. Maintenant, Paul il dit, vaut mieux se marier que de brûler de désir. Maintenant, si tu brûles de désir et qu'il n'y a pas de mari. Si tu brûles de désir, il n'y a pas de femme. Il se passe quoi? Et là, c'est pastoral. Hein. Moi, je voudrais en parler librement aussi. De dire, vous savez, c'est Pierre qui dit, waouh, moi, je ne peux pas poser un joug sur qui que ce soit que ni moi ni mes pères n'ont pu porter. Moi, vous savez, j'ai été 9 ans célibataire depuis ma conversion. Je peux vous garantir, j'étais très éveillé dès ma conversion au niveau sexuel. 9 ans. Mais je ne peux pas dire ce que j'aurais fait à 25, 30, 35, 40 ans. 45, 50, 55 ans. Sans avoir des rapports. Ce que je dis, c'est qu'on peut faire le choix de Paul. On peut au moins cheminer et dire... Je ne donnerai ce que je vais dire que dans la mesure où on est d'accord sur le fait qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Il faut rentrer dans un parcours de maîtrise jusqu'à ce que. Et parce qu'on maîtrise, je crois que ça libère quelque chose pour rencontrer. Ça, je le crois. Maintenant, quand on tombe et qu'on se relève, qu'est-ce qui se passe? Si on est d'accord là-dessus, eh bien moi je dirais, écoutez, si on est dans la maîtrise, la Bible... Quant à par rapport à la masturbation, on ne dit rien. La Bible ne dit rien sur la masturbation. Ce que la Bible dit, c'est qu'elle ne veut pas que nous soyons asservis par quoi que ce soit. La Bible dit, quel que soit l'objet des choses qui t'asservissent, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, et je ne me laisserai asservir par rien. Et la Bible ne dit rien sur la masturbation. Par contre, chose est sûre, c'est qu'on a un problème avec... Pour pouvoir se masturber, il faut que les pensées soient activées. Le problème, il est là. C'est la convoitise. Et je voudrais parler même aux veuves ou aux veufs. Parce qu'il y a une sexualité après le départ de son mari ou de sa femme. Je pourrais aussi dire, mais même à distance, vous savez, des fois, on est loin hein, de sa femme. Ça peut durer quelque temps. Et puis, suivant le rythme de son besoin intérieur, des fois, ça peut faire long. Et donc, à partir du moment où on gère la problématique de la convoitise, vous savez, si c'est à ta femme que tu penses, si c'est même en relation avec, on m'a raconté un truc, je trouvais sympa de raconter ça. En voyage à quelqu'un comme ça, il faut faire attention à nos téléphones, WhatsApp et tout ça, là, vous voyez. On est à l'étranger, et puis ça fait longtemps que le mari est loin. Et puis donc, elle s'est vêtue coquettement, elle a pris la photo, crac, puis elle a envoyé à son mari. Sauf qu'elle a envoyé un groupe de WhatsApp, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle envoie le message. S'il vous plaît, effacez le message avant. Effacez, effacez vite. Oh, mais comment veux-tu effacer? Le truc arrive. Tu dis, wow. Quand on est loin, quand c'est son mari, quand c'est sa femme. Je crois que il y a la honte qui s'attache à des choses qui ne sont pas ni l'intention ni le cœur de Dieu. Jésus il vient rencontrer la Samaritaine. Il la libère par l'adoration. Et moi, je ne voudrais pas qu'on se libère par le légalisme. Ce n'est pas le cœur de Dieu. La grâce et l'amour de Dieu nous donnent la force de marcher dans la sainteté. Elle n'est pas là pour faire n'importe quoi. Par contre, la grâce te prend là où tu es et te parle de liberté. Donc, vous avez bien entendu, je ne suis pas en train de donner une permission en mode « ouais, non, mais écoute ». Non, parce que si tu es asservi, si tu ne peux pas t'en passer, c'est un problème, ça se règle. Si c'est la convoitise qui te tient, ça se règle. C'est la pornographie, là. Vous savez, c'est parce que c'est le besoin d'amour qui n'est pas comblé. Il faut qu'il soit d'abord comblé. Donc, il y a un accompagnement, il y a un chemin. C'est le message de Jésus à la Samaritaine. Il y a un chemin. Il a ouvert ce chemin vers le Père. Il a ouvert ce chemin vers le Père. Et c'est fort parce que c'est à un puits qu'ils se sont donné rendez-vous. Vous savez, c'est une source. Et Dieu est source. Vous savez, Père, le mot Père, c'est source. Et Jésus nous donne rendez-vous au Père. Je voudrais qu'on se tourne vers le Père. La Bible nous dit, quand on tourne vers lui nos regards, notre visage ne se couvre pas de honte. Ce matin, choisis de tourner, même si tu es pris, au moment où on parle, par la pornographie, par la honte, la culpabilité, tu ne maîtrises pas, tu veux te marier, c'est un besoin. Et moi, je prie en ce moment, il y a des projets que je partagerai certainement dans l'avenir, que je crois qu'il faut répondre, accompagner ceux qui sont dans cette souffrance-là, non seulement à maîtriser, mais aussi à rencontrer quelqu'un. Moi, je prie pour des agences matrimoniales chrétiennes, je sais qu'il en existe, mais ici, maintenant, dans notre environnement, je suis en prière pour que Dieu suscite des personnes qui vont se lever pour accompagner, pour être délivrées de mythes qui sont des pièges et qui empêchent de rencontrer et de se marier. Je le crois et c'est une charge pastorale que je porte devant Dieu. Mais pour ce temps, je voudrais donner rendez-vous pour être libre de la honte, de la culpabilité, tout ce qui est enfermant. Comme Jésus a donné rendez-vous à la Samaritaine. Je voudrais que ce lieu soit un lieu où on ne jette pas de pierre, où la honte est telle qu'on se tient à l'écart, on dit non, je ne peux pas m'avancer. faut que je le vive seul, c'est un piège. La Bible nous dit que la communion des saints est le meilleur endroit. La maison de Dieu est le meilleur endroit. Venir vers lui, malgré ce poids de honte, c'est le meilleur choix. L'humilité précède la gloire. Et je nous supplie de venir vers lui et de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Que notre communion, nous soyons mutuellement en communion parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce matin, je déclare, ce lieu est un lieu de sécurité où on peut venir vers Dieu le Père, où on peut venir vers Jésus et connaître une délivrance, comme cette Samaritaine qui a été délivrée du regard, de la honte et puis de la culpabilité. Je voudrais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. On va prier, mais je voudrais pas juste dire que c'est ce matin que ça se passe. C'est un processus qui s'engage de choisir la lumière et de marcher dans la lumière. Choisir la lumière et de marcher dans la lumière. C'est en toute humilité que je vous parle, un cœur pastoral qui crie devant Dieu et qui sait qu'il a besoin de délivrance. Et c'est aussi nos regards, nos cœurs, c'est aussi un alignement avec l'intention de Dieu qui fait la délivrance et la libération. Ce matin, je voudrais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît, et puis qu'on se tourne vers Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ce texte qui dit « Quand on tourne vers lui nos regards, notre visage ne se couvre point de honte. » Il n'y a pas de honte ici. Pas de honte à se tourner vers Dieu. Il n'y a pas de honte à venir pour adorer le Père. Il n'y a pas de honte à dire « J'ai besoin de ton amour. » Il n'y a pas de honte à dire « Mais donne-moi de cette eau. Et si je bois, mais je n'aurai plus soif. » Il n'y a pas de honte à venir vers lui. Il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Si quelqu'un a soif, la soif de l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu, qu'il veut répandre au plus profond de nos cœurs, qui est comme une démarche, une soif, un cri, donne-moi à boire, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Seigneur, nous avons soif. Que ce lieu soit un lieu de sécurité, que ce lieu soit un lieu de sécurité. Il y a une onction de délivrance et de guérison ici. Je le crois, il y a une onction de délivrance et de guérison. Et j'annonce l'année de grâce. J'annonce une année de délivrance. Je parle à la lumière, que la lumière soit dans les esprits et au plus profond de ceux qui ont vécu même des traumatismes. Quel que soit ce que vous avez vécu, j'annonce une année de grâce. Je proclame la lumière d'en haut. Nous voulons marcher mutuellement en communion. Marcher dans la lumière. Venir vers lui. Alléluia. 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 Je dis, c'est le début, c'est pas la fin. On n'attend pas un acte mystique où on vous touche et puis tout se passe. C'est pas ça. Dieu t'a rendu capable de marcher dans la lumière. Il t'a rendu capable. Ne dis pas que tu es faible parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin pour manifester comme un choix de sortir de la honte. Je vais oser. Vous savez, si quelqu'un s'approche ici, qu'il n'y ait pas de jugement. J'allais dire gare à celui qui fait un jugement. Parce que c'est les personnes aimées de Dieu. Et c'est celui qui choisit l'humilité qui sera délivré et guéri. Vous pouvez vous approcher, on va juste poser la main et puis engager ce processus. Hein? Soyons libres. Choisissons la liberté ce matin. Choisissons, puis avançons-nous, on va juste prier, puis après quoi, on a notre bienvenue à Clé qui vient, je vais laisser la parole à Jasmine, mais j'ai foi qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit, on peut juste marquer cela, on peut juste marquer cela. Alléluia. Alléluia. Oh, wow, 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 wow.
J'ai reçu quelque chose dans ce temps de prédication que j'aimerais partager pour ceux et celles qui sont dans la honte. Rodrigue parlait à un moment donné d'Adam et Ève. Et vous savez, souvent on pense que quand on est dans la honte, on a fait quelque chose qui n'était pas bien, on est dans la honte, on a une fausse conception de Dieu. Où on pense que Dieu est là à la seconde où on est dans la honte, et là pour nous pointer du doigt, faire quelque chose. Saint-Esprit m'a ramené sur le texte d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont fait quelque chose, qui les a poussés à être dans la honte, Dieu ne s'est pas pointé immédiatement. Dieu a laissé le temps à Adam et Ève de se fabriquer des vêtements pour qu'ils puissent se cacher de la honte. La Bible dit même ensuite que Jésus est venu dans le jardin, mais ne s'est pas présenté immédiatement à Adam et Ève. La Bible dit qu'une brise est venue et Adam et Ève ont compris que Dieu était là. Mais Dieu n'est même pas encore venu à Adam et Ève. Il dit, où es-tu ? Regardez le cœur de Dieu face à la honte d'Adam et Ève. Dieu avait un respect, un amour et une grâce envers Adam et Ève qui étaient dans la honte, en disant, je ne me viendrai pas directement à toi quand tu seras dans la honte. Je te montrerai que je serai là. Je t'appellerai. Souvent, la honte nous emmène loin de la présence de Dieu. On pense que Dieu est là pour nous juger. Il y a quelque chose qui se passe, mais j'aimerais que vous puissiez voir à travers ce texte d'Adam et Ève le cœur de Dieu face à la honte. Et je dirais même l'honneur que Dieu a envers Adam et Ève alors qu'ils étaient dans la honte. Il a laissé le temps, ce qui se prépare des vêtements, il a laissé le temps en venant tranquillement dans le jardin pour montrer qu'il était là. Et il a juste appelé pour attendre à ce qu'Adam et Ève soient prêts. Et j'aimerais aussi parler à ceux et celles qui sont dans la honte, mais qui est une vraie honte. Dieu est là. La présence de Dieu est là, mais il n'est là pas pour vous condamner. Il dit juste, où es-tu ? Où es-tu ?